when the windows were broken, the air turned to poison. So time was frozen, and time was frozen. They sent in soldiers with oxygen masks to take the girl back. And if I be a lawsuit, and if I be a lawsuit, and what the world looks was a photograph of every dead machine and every shot of grass. And what the world looks was a document with every speck of dust and every broken pen inside a dead sunscreen. Just out of art school, we're hot up the world. So we took their masks and hazmat suits and went down to York. And they sent us inside in empty room. We waited for instructions inside empty rooms. What the world from us was a photograph of every dead machine and every shot of glass. And what the world from us was a document with every speck of dust and every broken thing inside a dead skyscraper.
Jesse, non pas James, mais Jesse Styles qui signe ce titre The Building, un titre qui fait support à un jeu vidéo. Mais tout ça s'inscrit dans le cadre, comme je le disais juste avant, de Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Troisième édition des rencontres des arts numériques, électroniques et médiatiques. Ça se passe du 9 au 17 décembre, donc c'est ces jours-ci. Et ça se passe au Vigan. Pour en parler avec nous, un artiste numérique devenu, par la force des choses aussi, organisateur et porteur de projets. Gaspard Bébier-Valérian. Bonjour Gaspard.
Bonjour Gilles.
Alors, troisième édition, ça veut dire que jusqu'ici tout va bien.
Jusqu'ici tout va bien.
Comment est né, avant de détailler l'abondant programme de ces rencontres, comment est né ce rendez-vous ? Puisque qui dit rencontre dit pas festival. Enfin, j'imagine qu'il y a un choix derrière ce mot plutôt que d'utiliser le mot festival.
Oui, effectivement, c'est pas un choix anodin. Ça tire son histoire du territoire et du contexte sur lequel on s'est établi, puisque ça fait environ 4 ans qu'on a établi le projet d'ODEIS, qui est une association destinée à promouvoir les arts numériques, électroniques et médiatiques. On tient à l'exhaustivité sur le territoire du Vigan. Et on a rapidement voulu poser des temps forts dans le cadre de ce travail sur le Vigan. Et plutôt que de créer un énième festival où effectivement il y a tout un ensemble de temps qui se font à droite à gauche, on voulait miser plus finalement sur la dimension de la rencontre, la dimension aussi des croisements des publics. Et donc, les rencontres ont cette vocation à travailler sur différents lieux au sein du Vigan. Et les personnes qui connaissent cette ville savent que ce n'est pas immense, que ce n'est pas énorme, mais on a différents types de publics, des publics plutôt amateurs d'art ou même esthètes, et puis des publics pas du tout familiers avec ces formes-là. Et du coup, croiser différents lieux, différents temps, et être beaucoup plus dans une dynamique de croisement, de rencontres, de dialogue, de débat, ça nous semblait primordial. Donc effectivement, on pourrait nous objecter que c'est un festival. Nous, on est beaucoup plus dans l'idée effectivement des rencontres, parce qu'on a des modalités publiques qui sont différentes et qui se complètent.
Mmh. Alors d'autant que dans ces formes d'art numérique, etc., finalement, on s'oriente souvent plus vers des propositions, soit des installations, soit des œuvres qui nous amènent souvent à être acteurs, hein, c'est ce que permettent les technologies, etc., et qui finalement ont toujours un propos qui est plus impliquant et plus politique, dans le sens le plus noble du terme, que les formes traditionnelles qu'on peut avoir en concert, même s'il y a des artistes engagés, etc., et les chansons et tout ça. Mais là, il y a quand même une particularité dans ces nouvelles formes transversales d'expression artistique, où le spectateur, le destinataire du message, il est toujours un peu central quand même.
Mais c'est effectivement une remarque qui est très juste, particulièrement effectivement dans le champ des arts numériques et dans l'usage des nouvelles technologies. Il y a un parti pris qui n'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est un support qui est technologiquement construit par des enjeux de pouvoir, je le perçois comme ça, c'est-à-dire que ça suppose une expertise en termes de développement d'ingénierie, mais aussi au niveau de certains matériaux, c'est-à-dire qu'on est contraint, on est un peu soumis aussi à certains outils comme les ordinateurs, certains vidéoprojecteurs, des capteurs, donc des savoir-faire aussi, et tout ça, ça se situe aussi dans une question qui est la question de l'économie. Alors après, on pourrait faire l'apologie d'une forme d'art numérique, un petit peu un art dominant, et les arts numériques, c'est comme parler de peinture, il y a tout dedans. Nous, on a fait le choix, effectivement, sur le Vigan, de défendre certaines formes d'art numérique qui sont beaucoup plus, effectivement, des formes critiques, discursives, des formes qui, effectivement, s'engagent dans un discours, dans un dialogue qui a une inscription politique. C'est-à-dire, plutôt que d'être dans une forme de production esthétisante, comme certaines formes d'art numérique le sont, on préfère, effectivement, proposer des installations qui impliquent le spectateur, mais pour se relier à des problématiques plus globales que juste celles de l'art. C'est-à-dire que l'art, pour nous, est un élément reliant, c'est un élément de médiation, c'est un élément de débat. Et comment, finalement, à travers des installations, le public, à un moment, peut se relier à des questions qui sont, par exemple, des questions d'écologie, des questions sociales, économiques. Pour nous, c'est beaucoup plus vaste. Et du coup, assumer le fait que les arts numériques ont une charge politique, c'est du coup aussi se relier à notre territoire.
Oui, pour illustrer ça, par exemple, on peut considérer que quelqu'un qui est peintre, par exemple, hein, qui peint, que ce soit de la peinture moderne, abstraite, peu importe, mais qui utilise ce médium-là, à l'heure de la dopi, il n'est pas concerné, quoi. On va dire, il n'est pas vraiment concerné, quoi. Alors qu'un artiste numérique, à l'heure d'Adopi, il a les boules. Et il a sans doute envie de le faire savoir qu'on vit dans un pays où on envisage les choses du numérique. Je sais pas, moi, un peu comme l'homme de Cro-Magnon aurait envisagé le siècle des Lumières, quoi. Enfin, je veux dire, on s'y prend pas par le bon bout, et souvent c'est n'importe quoi. Et du coup, tous ces artistes qui sont très sensibilisés et au logiciel libre, souvent, hein, parce qu'on voit, il y a beaucoup d'artistes multimédia qui utilisent des briques logicielles en libre, Pure Data notamment, ou d'autres trucs, ou les geeks qui font de l'Arduino et des trucs comme ça. Et ceux-là sont de fait très très sensibilisés aux questions justement de politique et de législation autour du monde du numérique, ce qui donne quand même une particularité finalement à ce champ artistique, à ce champ culturel du numérique.
Oui, alors effectivement, bon, peut-être sur la question des peintres, j'aurais peut-être pas forcément tendance à les stigmatiser, parce que dans les avant-gardes ou dans l'histoire de la peinture, il y a eu quand même effectivement de forts mouvements avec des artistes hyper impliqués sur justement des mouvements politiques, notamment dans l'extrême gauche. Mm-hmm. Mais effectivement, ce que tu dis vis-à-vis des nouvelles technologies est extrêmement juste, c'est-à-dire que toute la culture de l'open source, mais également toute cette histoire du low-tech, du détournement des technologies, c'est finalement aussi un positionnement fort qui intervient un petit peu en contrepoids de certains lobbies industriels dominants qui sont toujours en train de breveter, toujours en train finalement de tout cadenasser. Et là, effectivement, on a une force créative au niveau des artistes, mais pas seulement. C'est-à-dire que finalement, on a des acteurs culturels qui se définissent pas comme artistes, qui n'ont même pas envie de se revendiquer comme tels, et qui sont dans des moyens d'inventer au quotidien, des moyens de se réapproprier aussi les outils, les usages technologiques, et qui ont produit quelque chose qui va au-delà finalement de ce que les industriels ou les grands groupes économiques produisent. Donc là, c'est devenu extrêmement intéressant parce que c'est créatif, c'est inventif, c'est innovant, et en tout cas, c'est aussi une façon de pas être dans un système dominant. C'est aussi une façon pour moi, c'est du poil à gratter. C'est une façon aussi de produire des choses qui sont inattendues parce qu'il y a aussi du collectif derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, les communautés open source ou même les rassemblements avec les Hack Labs ou les Media Labs, finalement, on rassemble des individus qui mettent en commun leurs connaissances, leur ingéniosité, leur savoir-faire. Et on est dans une logique de partage, d'horizontalité. Et là, ça permet d'aller au-delà parce qu'on n'est pas du tout dans une version descendante. Donc finalement, l'art contemporain et les arts numériques, effectivement, dans un sens, emblématisent, rendent beaucoup plus visible cette dynamique-là. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est une forme d'autonomisation et d'émancipation. C'est-à-dire finalement l'art peut être aussi, en tout cas l'art et la création peuvent être des moyens d'émancipation. En tout cas, je pose la question et je la trouve, j'ai envie moi d'y croire.
Ah oui, bah, nous à Divergence, on est convaincus, évidemment, puisque le faites-le vous-même, le do-it-yourself, qu'on acronymise en DIY, revient à la mode, alors que ça a été, et paradoxalement, c'est là-dessus que s'est basée la société américaine en partie, alors que c'est de la société américaine aussi qui est venue l'idée de s'accaparer tout et d'empêcher les gens de faire eux-mêmes. Enfin bon, c'est pas nouveau, l'espèce humaine marche sur la tête. Pourtant, elle a des pieds, mais tout le monde n'est pas au courant. Alors, pour être plus dans la programmation de cette troisième édition de Jusqu'ici tout va bien, ça s'est toujours appelé Jusqu'ici tout va bien ?
Non, en fait, chaque année, ce qui reste dans ce temps fort, c'est la question, le sous-titre des rencontres des arts électroniques, des arts numériques, électroniques et médiatiques. On tient justement à être complet, quitte à être peut-être un peu lourd, mais on y tient parce que c'est une façon de ne pas investir seulement le numérique. C'est aussi une façon justement d'investir tout ce qui est de l'ordre de la mécanique, de l'électronique, de l'objet, qui peut se référer à l'objet. Et le médiatique, c'est aussi se référer à des supports télévisuels, radiophoniques, imprimés. Et tout ça, c'est pour nous, ça contribue aussi à cette lecture critique qu'on a justement de l'usage des nouvelles technologies dans le champ de la création. Donc il y a ce sous-titre qui reste chaque année, c'est-à-dire les rencontres des arts numériques, électroniques, médiatiques. Et chaque année, il y a un commissariat qui se construit autour d'une problématique, d'une thématique qui nous semble assez importante. Donc la toute première année, c'était piégé par la liberté. La seconde année, c'était art fair, donc la foire de l'art, mais aussi la foire au sens du jeu de l'art. Et cette année, c'est Jusqu'ici tout va bien. On trouvait que c'était des circonstances au vu justement de tout ce que l'on vit aujourd'hui au niveau boursier, au niveau économique, politique, social, sans céder d'ailleurs au pessimisme. C'est-à-dire que les commissariats que l'on fait se réfèrent effectivement, ils se relient à un contexte qui nous semble d'actualité. Pour autant, ils n'ont pas forcément des réponses, ils n'apportent pas des réponses, mais ils mettent un moment en visibilité des œuvres qui vont permettre d'articuler avec des points de vue complémentaires et pas forcément de façon illustrative ou de façon noircie. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, avec Jusqu'ici tout va bien, évidemment, la formule est ironique. Pour autant, les pièces qu'on présente joue justement sur cette forme de dualité, d'ambiguïté. On est aussi beaucoup dans le jeu. Et justement, les arts numériques intègrent le public, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On n'est pas forcément pour l'interactivité gratuite, non maîtrisée, mais à un moment, si le public, on arrive à le capter à un moment dans un dispositif qui peut être ludique tout en ayant un fond critique et pertinent, ça nous semble judicieux. Donc être dans ce jeu, c'est aussi une façon d'accéder, de capter les publics, et les arts numériques ont cette grande qualité qui est de pouvoir capter les publics par autre chose que la simple lecture, le simple regard que l'on pose sur une pièce, notamment en impliquant le corps, notamment en se reliant à des référents culturels qui sont dans la culture populaire, par exemple le jeu vidéo, la bande dessinée. Tout ça, c'est des choses qui sont des clés d'accès et d'accroche, et on considère que c'est important parce que parler d'art ou parler d'art contemporain, c'est aussi se relier à la société, se relier à l'individu, se relier à une culture populaire. Sinon, effectivement, on considérait que l'art est immuable et qu'il n'y a que les musées. Et le fait aussi qu'il y ait des structures comme la nôtre, c'est aussi contribuer à une dynamique, justement, de valorisation des formes émergentes ou de formes différentes qui ne sont pas forcément les plus institutionnelles.
Alors on va écouter une petite pause musicale après laquelle on détaillera l'exposition, la performance et sortie de résidence de phase 3, la soirée de projection avec le cinéma du Vigan, l'atelier, le workshop et puis l'édition du catalogue. La pause musicale qu'on écoute, peut-être que tu peux nous la commenter.
So far so good, c'est tout simplement le sous-titre de Jusqu'ici tout va bien en anglais.
Absolument, la traduction en quelque sorte.
Exactement.
Is it easier to be sad, biting your nails to shreds? No, your eyes hurt from the sun. You've been away for a month. It's getting the best of us. The shelves stay full of your things, just like they always have been. Oh, the words that would roll off my tongue. So far, so good. So far, so good. So far, so good. Curling your toes in the sand. No, a holiday romance would ruin all of my plans. Getting the best of us. So far, so
la troisième édition des rencontres des arts numériques, électroniques et médiatiques. Ça se passe du 9 au 17 décembre, principalement au Vigan, mais c'est aussi au château d'Assas, qui n'est pas tout à côté du Vigan.
Alors attention, parce qu'effectivement, il y a déjà eu cette confusion. C'est le château d'Assas, en fait, au Vigan.
Ah oui, d'accord. Il est nul, le Montpellierin. Il est complètement largué, là, le garçon. Il dit château d'Assas. Oui,
c'est
donc, normal. Donc c'est au Vigan. Il y a deux châteaux d'Assas. Il fallait pas l'oublier.
Non, mais on assume complètement notre territoire. Mais il n'est pas exclu qu'on exporte au fur et à mesure aussi ce qu'on fait. Mais dans l'immédiat, on est au Vigan.
Alors, au château d'Assas, donc au Vigan, en partenariat avec le pôle culturel du château, une exposition pendant toute la durée de l'exposition des rencontres, pardon. Mm-hmm. Une exposition où on va retrouver bien pas mal d'acteurs autour aussi du jeu.
Oui, du jeu et pas exclusivement en fait. Il y aura également de la vidéo. On a pas mal d'artistes, des jeunes artistes, d'autres plus confirmés. Chose étonnante pour aussi un événement qui se consacre aux arts numériques. On aura une peinture, c'est un prêt par le musée de Sérignan, une peinture d'héros. Mais qui, c'est aussi ça, on a pas une posture complètement figée ou arrêtée. C'est-à-dire qu'on trouve qu'on essaie justement de construire une exposition qui, avec différentes formes, va permettre de vraiment créer un lien, une visite, un cheminement dans ce que l'on voit. Donc, à un moment, mettre en juxtaposition une peinture avec une installation interactive dernier cri, c'est quelque chose qu'on assume complètement. Mm-hmm. Donc, effectivement, on a pas mal d'artistes. Hein. Au total, je ne sais plus exactement, c'est moi qui fais le commissariat, mais on en a...
Il y en a beaucoup.
Il y en a quasiment une dizaine. Il y en a quasiment une dizaine, donc effectivement, pour pas mal d'installations interactives, de jeux vidéo, également de vidéos à proprement parler, d'objets génératifs, donc notamment on a également une pièce qui est une forme de pièce conceptuelle qui se réfère au film de Stanley Kubrick, qui s'appelle le film de Shining. Mm-hmm. The Shining, donc c'est une pièce conceptuelle d'Aracte qui est une forme de générateur générateur de... En fait, pour expliquer ce que c'est un générateur, c'est un programme qui, sur un temps déterminé, génère une nouvelle phrase. Et ça se réfère en fait à Jack, en fait, le héros dans Shining, qui écrit son fameux roman. Et en fait, c'est un faux roman, ce dont on se rend compte, où il ne fait que taper toujours la même phrase. Mm-hmm. Tout ce travail, pas d'amusement, ça abrutit Jack. Enfin, en anglais, c'est « All work and no play, makes Jack a dull boy ». Et donc là, ce générateur, en fait, se base sur une base de données, une base de données qui contient plus de 50-60 000 prénoms de tout le monde et qui génère et associe chaque fois le prénom à son genre. Donc c'est une façon aussi de ne pas se prendre au sérieux et de signifier que bah, des fois, il faut aussi relâcher, il faut aussi s'amuser. Ce que je disais tout à l'heure hein, sur la question un petit peu aussi du loisir ou de la culture populaire, hein, d'être en mesure de ne pas toujours être extrêmement sérieux, figé. On va avoir aussi une pièce qui est très belle, une pièce de Keiva Nalinagi qui s'appelle Boo. Boo, c'est un face-à-face avec des zombies. Et le nombre de zombies à échelle 1 dépend du nombre de spectateurs. Et ces zombies, plutôt que d'être dans une forme de comportement extrêmement illustratif ou évident, le zombie, fondamentalement, est plutôt agressif. Oui. Il se rue, ou en tout cas, il se rue sur des proies. Mais là, en l'occurrence, non, c'est des zombies qui sont en attente, qui nous observent, qui se déplacent à l'inverse de nos mouvements. C'est-à-dire qu'en temps réel, il y a un système de tracking, donc de suivi des mouvements qui permet aux zombies de savoir quelle est notre position, comment on se comporte face à eux, si on se rapproche, ils s'éloignent, si on part à droite, ils vont aller à gauche. Une espèce de face-à-face, quelque chose de très animal et en même temps qui nous questionne aussi sur notre humanité, c'est-à-dire face à l'altérité, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on est dans l'observation, une espèce d'entre-deux? Est-ce qu'on passe à l'action? Il va y avoir également aussi une série de vidéos d'Alain Declercq et Jeanne Supuglas. Alain Declercq, il a la particularité, souvent dans son travail, c'est quelque chose qui intervient, il travaille avec des caméras cachées. Et les vidéos qu'il va présenter, ce sont des vidéos où il a filmé les préparatifs du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Sauf que par la nature de la vidéo qu'il a faite, qu'il a captée avec la caméra cachée et par le montage qu'il fait, ça transforme complètement l'événement. C'est-à-dire que l'événement qui est plutôt a priori un événement commémoratif, institutionnel et puis a priori pacifiste devient plutôt une vidéo captée en fait de façon illicite et qui représente un coup d'État, l'armée qui prend le pouvoir. C'est très angoissant finalement comment l'image devient versatile, comment elle se retourne, elle transforme. Il y a également aussi tout le travail qu'il a fait avec Jeanne Supuglas, avec Plan Iode et Protection Civile. C'est deux pièces qui se répondent assez bien. Plan Iode, en fait, pour expliquer, Alain Declercq, il est plutôt dans le champ, il se questionne beaucoup sur les institutions du pouvoir. Et Jeanne Supuglas, elle travaille plutôt sur le lobby pharmaceutique, sur la question du médicament et ce que ça représentait. À un moment, ils ont fait une conjugaison avec justement ce travail Plan Iode, où il s'avère que tous les deux ans, toutes les pharmacies du pays reçoivent des cartons de cachets d'iodure de potassium pour prévenir en cas d'irradiation nucléaire, donc attaque ou accident, prévenir des risques d'intoxication au niveau de la thyroïde, de se retrouver du coup avec la thyroïde attaquée par la radioactivité.
D'ailleurs, vous pouvez aller faire des stocks, hein, parce que personne ne le dit, mais...
On n'est pas à l'abri.
On est dedans.
Complètement. Et via une vidéo qui finalement est très simple, qui n'est pas documentaire, on est vraiment dans un travail plastique avec une série de plans séquences qui représentent les différents pharmaciens dans leurs officines, qui manipulent ces cachets, qui les mettent dans des coffres forts, d'autres les mettent complètement dans les arrière-boutiques. On est complètement en train de sous-tendre une forme d'angoisse, d'attente en disant qu'est-ce que c'est ces médicaments, pourquoi, ça reste quelque chose de secret ou d'officieux, personne n'est mis au courant. Et ce qu'on le sait encore moins, c'est que ces médicaments, ils sont fournis aux pharmacies par la pharmacie des armées. Donc c'est une grande institution qui existe, moi je ne connaissais pas, qui justement fournit ces médicaments. Donc on est finalement en train de sous-tendre le principe du risque, le principe de l'accident, tout en essayant de se rassurer. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et la seconde vidéo qui entre en écho avec ça, qui a été réalisée avec Alain Declercq et Jeanne Supuglas, c'est Protection Civile, qui a été tournée dans des abris anti-atomiques en Suisse. Donc en Suisse, ils ont creusé des montagnes entières où ils ont fait des mini-cités. Oui. Avec,
il y en a des milliers.
Il y en a des milliers et c'est énorme. Il y a même des cellules d'isolement ou même des infirmeries.
Des villes carrément.
Ah, c'est carrément des villes, oui.
Des trucs gigantesques.
Ouais. Qui sont dans les montagnes, construites dans les montagnes. Et donc on a une vue sur ces bâtiments qui sont vides et où on arrive à voir chacun de ces lieux, qu'est-ce qu'ils représentent. Mais qu'est-ce que finalement, à quoi ça sert? C'est-à-dire que c'est un lieu vide, mais... Qui est finalement en train de mettre en évidence finalement la question de la paranoïa.
Oui, il y a un côté relent de la guerre froide pendant laquelle on a beaucoup construit ce genre de lieu. Après, d'aucuns disent qu'il s'y déroule des gros stuff de temps en temps, parce que c'est vrai que la plupart du temps, ça ne sert pas.
Si c'est pour des gros stuff, c'est pas mal.
Alors on voit bien une programmation pointue où même quand il s'agit de jeux vidéo, on est quand même dans une démarche de jeux radicaux contre la dictature du divertissement. Là je pense au collectif Mol Industria, où plusieurs choses vont être présentées aussi dans cet ordre d'idées.
Oui, mais on est très content aussi de présenter ces pièces. Alors Mol Industria, c'est un collectif d'artistes italiens sur lequel il y a effectivement un acteur peut-être un petit peu plus présent qui est Paolo Pedassini. C'est une communauté hein, de graphistes, de web designers, d'artistes, de musiciens. Et Mol Industria, effectivement, crée des jeux vidéo dont le gameplay reste très rudimentaire, mais qui met en place un ensemble de situations assez absurdes, assez drôles, finalement, assez décalées, grinçantes, et qui, effectivement, ont une charge politique, mais pour autant restent très, très simples, très addictifs. Donc, effectivement, nous, on va présenter deux pièces dans le cadre de cette exposition. Pour donner un exemple quand même de la teneur de leur travail général, je pourrais peut-être détailler rapidement après les pièces qui vont être présentées.
Très rapidement, parce que le temps tourne et nous allons bientôt être courts.
Donc en fait, je vais détailler les deux pièces qui sont présentées. Il y a une pièce qui s'appelle « Every day is the same dream ». C'est tout simplement une forme de scénario que l'on peut rejouer à outrance, où chaque fois on peut créer des différences dans le jeu. Donc on incarne un homme d'affaires, ou plutôt un homme de bureau, qui se lève, qui peut prendre le parti d'aller au travail, de s'habiller, de petit déjeuner, de regarder la télé, de saluer sa femme et d'aller au bureau et de travailler normalement. Ça, c'est un scénario parmi les autres, tout comme il peut prendre un scénario totalement différent, aller au travail à poil, ne pas prendre les embouteillages, aller communier avec une vache et puis à la fin se suicider. Donc on est effectivement dans une forme de narration dont on est le héros, en quelque sorte. Hein. Ça nous ramène aussi à notre enfance, les livres dont on est le héros. On est effectivement dans la logique du jeu vidéo, avec effectivement les actions que l'on entreprend, des choix que l'on fait, et comment ces choix finalement influent sur le scénario. Clairement, c'est effectivement aussi une critique du système du travail, comment le travail est un système normatif, et ce qui est permis dans ce jeu, c'est aussi d'aller au-delà, de créer de la poésie, de créer de l'étonnement, tout en étant effectivement quelque chose de très grinçant. Donc c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, tout comme une seconde pièce de Mol Industria qui s'appelle « Intérieur d'un gratte-ciel mort », qui est une pièce avec on incarne une forme de scientifique qui se balade avec une combinaison dans un gratte-ciel dans lequel il y a eu un accident, il cherche des indices et d'un coup il s'envole, il saute de la fenêtre et il s'envole. Et plutôt que de le voir chuter, il vole comme un oiseau, il nage en fait presque dans les airs on pourrait dire. Il y a quelque chose de très pop avec des couleurs assez acidulées, très légères, puis une musique aussi, tout un travail de son
qu'on écoutait tout à l'heure, au tout début. Oui.
Le tout premier morceau, tout à fait. Et donc, il part à la recherche d'indices. Et finalement, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est la catastrophe qui est sous-tendue. C'est-à-dire qu'il nage finalement presque dans le bonheur avec un univers un petit peu onirique. Sauf que l'accident, c'est dans la tour jumelle qui est à côté de celle depuis laquelle il a sauté. Il y a un avion, un Boeing fiché complètement au sommet et complètement éclaté. Et les gens observent de façon tout à fait anodine. Petite fille lâche son ballon rouge, il faut lui récupérer son ballon. Donc on est finalement dans un état de paradoxe, mais je crois que c'est ça finalement aussi. On est dans un état de paradoxe permanent, on est obligé d'avancer parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on vit. Et en même temps, si on se réfère finalement à ce qui nous entoure, on se rendrait compte qu'on est dans une période extrêmement pessimiste et sombre. Et je pense que l'art, c'est aussi, ça peut être un moyen de s'évader, mais ça peut être un moyen aussi critique. Et pourquoi pas conjuguer les deux, c'est-à-dire rester critique, mais aussi voir encore de l'espoir. En tout cas, dans la manifestation et au niveau du commissariat, c'est ça aussi le parti pris. C'est d'être en mesure de mettre en perspective des moyens de faire, des moyens de s'émanciper et puis d'envisager le monde de façon, pourquoi pas, constructive, positiviste, peut-être pas, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans la naïveté, mais en tout cas de rester constructif.
Il est évident que par les temps qui courent, ceux qui ont de l'imagination sont plutôt optimistes, ceux qui en manquent sont plutôt rétrogrades, disons-le comme ça. Ça se passe donc au Vigan du 9 au 17 décembre, évidemment, www.oudeis.fr, oudeis.fr, pour bien tout le détail, parce qu'il y a plein de choses à détailler. Je sais que le 10, ce sera l'occasion de sortie de résidence de phase 3. On n'aura pas le temps d'évoquer tout ça, mais est-ce que le 9, il y a un lancement, un rendez-vous, une inauguration des rencontres?
Oui, absolument. Le vendredi 9 à 18h au château d'Assas au Vigan, il y a donc l'inauguration de l'événement. Le lendemain, il y aura évidemment l'exposition visible. Et puis surtout, à partir de 19h, il y a une performance du collectif Phase 3, qui est un ensemble d'artistes belges accueillis en résidence sur Odeis. Et donc, ils vont présenter leur dernière pièce dans une grande chapelle qui a été aménagée spécifiquement pour la performance. C'est quelque chose d'assez démesuré, assez fou. Ce projet, j'ose pas trop en dire, si ce n'est que lorsqu'on rentre, ils nous font signer une autorisation, une dérogation.
Une
décharge de responsabilité. Et ils ont l'intention également de distiller de l'eau de vie. Donc Voilà, lorsqu'on parlait de moyens d'émancipation, on en a un exemple. Puis également aussi, durant la semaine, il y aura le jeudi 15 au cinéma Le Palace au Vigan. Il y a une programmation vidéo avec Nathalie Combe, Yann Sinik, Un monde pour soi, avec l'ambassade de Chris Marker, ainsi que Le coup de la vie de Beatriz Acosta, qui est sa dernière pièce.
On s'en fera l'écho autant qu'on pourra sur Divergence pour cette troisième édition des Rencontres des Arts Numériques, Électroniques et Médiatiques au Vigan, intitulée cette année « Jusqu'ici, tout va bien ». On espère que tout ira bien jusqu'à la fin de ces rencontres et que les gens auront le bon goût de se déplacer jusqu'au Vigan pour ceux qui habitent pas tout à côté. Gaspard, merci beaucoup. On va se quitter avec une dernière illustration sonore, un commentaire.
Merci, et puis jusqu'ici tout va bien.
Salut.